Chapitre 17. Ellen White et les sources non bibliques. Jude Lake. Le ministère prophétique d'Ellen White a pris fin il y a maintenant un siècle, mais l'allégation selon laquelle elle plagia les travaux d'autres auteurs est toujours d'actualité. Depuis Can Wright, qui affirma qu'Ellen White était une grande plagiaire, jusqu'aux affirmations relayées par Internet, selon lesquelles elle copia 90% de ses écrits, de nombreuses personnes accusent Ellen White d'avoir été inspirée par des auteurs humains plutôt que par Dieu dans le cadre de son ministère prophétique. La question qui sous-tend cette accusation est la façon dont laquelle Ellen White utilisait ses sources. Copia-t-elle sans réfléchir ce que certains auteurs de son époque avaient écrit, comme l'affirment ses détracteurs, ou s'agissait-il d'autre chose? Fit-elle un usage raisonnable de sources extérieures? Fit-elle preuve d'honnêteté à ce sujet? Le phénomène d'inspiration arrangeait-il les prophètes qui utilisaient les écrits d'autres auteurs? Comment Ellen White utilisait-elle vraiment ses sources? Nous tenterons de répondre à ces questions 1. En proposant un résumé de la position des théologiens sur ces questions, 2. En présentant 7 faits majeurs concernant la façon dont Ellen White utilisait des sources extérieures, 3. En donnant 5 exemples de la façon dont elle les utilisait. Résumé de la position des théologiens. Les adventistes se sont souvent exprimés à ce sujet au cours du siècle écoulé, mais les recherches se sont intensifiées depuis le début des années 1980, quand Walter Ray évoqua la question du plagiat dans son livre « The White Lie ». D'une certaine façon, certains adventistes furent surpris par cette attaque, car les accusations de plagiat avaient été oubliées depuis longtemps. La position traditionnelle sur l'inspiration n'était pas suffisante pour expliquer les parallèles littéraires avec d'autres sources dans les écrits d'Ellen White. Par conséquent, de nombreuses personnes cessèrent de lui faire confiance en tant qu'auteur inspiré. Cependant, même avant la publication du livre de Ray, le White Estate avait commencé à travailler sur la question des emprunts littéraires d'Ellen White et de nombreuses études furent menées au cours des années 1980 et 1990. Deux études majeures publiées à cette époque furent d'un grand apport dans le débat sur les sources utilisées par Ellen White. Tout d'abord, il y eut l'étude menée sur l'aspect juridique par Vincent Ramick, avocat associé dans le cabinet Dealer, Ramick & White, qui était alors basé à Washington et était spécialisé dans les brevets, les marques déposées et la propriété intellectuelle. Après avoir passé plus de 300 heures à étudier un millier de cas dans le droit américain à la période d'Ellen White, 1790 à 1915, le 14 août 1981, Ramick publia un document de 27 pages comportant 53 notes de bas de page et déclarant qu'Ellen White ne pouvait être accusée de plagiat et que ses écrits n'étaient pas une violation des droits d'auteur. La deuxième étude, intitulée « Life of Christ Research Project », fut menée par Fred Veltman, professeur de Nouveau Testament à l'université Pacific Union College. Veltman et son équipe consacrèrent 5 années, 1981 à 1988, à la préparation d'une analyse détaillée de 15 chapitres choisis arbitrairement dans le livre « The Desire of Ages », « Jésus-Christ ». Et ils publièrent un rapport de 2561 pages concluant que, même si Ellen White avait utilisé de nombreuses sources dans ses écrits, elle n'en était pas dépendante. Elle les adaptait afin d'améliorer la qualité de ses écrits et d'atteindre ses objectifs, tout en faisant preuve d'indépendance et d'originalité dans sa pensée. Plus récemment, la question des sources utilisées par Ellen White a été abordée par Leonard Brand et Don S. McMahon dans « The Prophet and Her Critics, A Striking New Analysis Refutes the Charges that Ellen G. White Borrowed the Health Message » et Don S. McMahon dans « Acquired or Inspired, Exploring the Origins of the Adventist Lifestyle », deux ouvrages publiés en 2005. En 2009, E. Marcella Anderson King et Kevin L. Morgan publièrent « More Than Words, A Study of Inspiration and Ellen White's Use of Sources in the Desire of Ages », basée sur l'étude de Veltman et la rendant plus accessible au grand public. En 2013, Kevin L. Morgan publia « White Lie Soap for Removal of Lingering Stains on Ellen White's Integrity as an Inspired Writer », un ouvrage basé également sur l'étude de Veltman. Dans l'édition de 2014 de Ellen G. White Encyclopedia, Denis Fortin publia un article important intitulé « Plagiarism, au sujet de l'accusation de plagiat et la façon dont Ellen White utilisait ses sources. En 2015, Tim Poirier écrivit « Ellen White and Sources, The Plagiarism Debate », le chapitre 11 du livre « Understanding Ellen White, The Life and Work of the Most Influential Voice in Adventist History », publié par Merlin Burt et soutenu par les responsables du White Estate. Enfin, de nombreuses ressources sur la question du plagiat se trouvent sur la liste du Ellen G. White Estate, whiteestate.org. Le résumé le plus complet de toutes les questions relatives à l'accusation de plagiat et à la façon dont Ellen White utilisait ses sources sont les notes de conférence de Roger W. Kuhn, responsable adjoint du Ellen G. White Estate au cours des années 1980 et 1990. Dans le cadre de ses cours et de ses diverses présentations, il aborda les questions terminologiques, bibliques, légales et pratiques concernant la façon de travailler d'Ellen White, et il montra qu'on pouvait parler d'emprunt littéraire et non de plagiat. Le travail de Kuhn est une référence pour les chercheurs aujourd'hui encore et est utilisé dans les facultés de théologie dès qu'il est question des emprunts littéraires d'Ellen White. 7 faits majeurs sur la façon dont Ellen White utilisait des sources extérieures. Les 7 faits suivants font consensus parmi les théologiens adventistes après des années de recherche et concernent l'emploi des sources par Ellen White. 1. Ellen White lisait de nombreux ouvrages protestants publiés à son époque et, de façon légitime, elle emprunta certaines idées à ses sources non inspirées. Le fait qu'elle lisait beaucoup est établi depuis longtemps. Pourtant, de nombreux adventistes continuent à croire qu'elle n'était inspirée que par ses visions. Après tout, elle n'avait reçu qu'une formation limitée, elle mentionnait rarement ses lectures et elle disait que Dieu était à l'origine de ses messages. De plus, nous disposons d'une photo d'elle bien connue sur laquelle elle regarde au loin, un stylo dans la main, comme si elle écrivait ce que Dieu lui dictait. Cette photo donne le sentiment qu'elle écrivait des livres plus qu'elle n'en lisait, et certains adventistes en ont déduit qu'elle lisait très peu. Pourtant, quand Ellen White mourut, sa bibliothèque personnelle contenait environ 1300 ouvrages, dont beaucoup n'étaient pas écrits par des auteurs adventistes, une bibliothèque dont le contenu étonnerait plus d'un théologien, encore aujourd'hui. Le fait qu'elle lisait beaucoup et s'inspirait de certains ouvrages est évident dans la mesure où elle utilisa au moins 50 sources différentes dans la rédaction de son livre « The Desire of Ages, Jésus-Christ ». W.C. White explique que sa mère lisait vite et admirait la façon dont d'autres auteurs relataient les scènes que Dieu lui avait présentées en vision. Elle trouvait que c'était à la fois un plaisir, une commodité et un gain de temps d'utiliser totalement ou partiellement le langage qu'ils employaient pour décrire les choses qu'elle avait découvertes grâce au processus de révélation et qu'elle souhaitait transmettre à ses lecteurs. D'après l'étude de Ramick mentionnée précédemment, la façon dont Ellen White utilisait le langage d'autres auteurs est considérée comme acceptable et correspond à la définition légale de l'emprunt littéraire légitime consistant à adapter ou à améliorer des ressources dans un but nouveau. La notion de plagiat consistant à copier ou reproduire le langage, les idées et les pensées d'un autre auteur tout en les faisant passer pour un travail original ne s'applique pas à la façon dont Ellen White utilisait ses sources. En fait, elle empruntait certains passages dans les ouvrages qu'elle lisait et elle les adaptait d'une façon telle que le produit fini était unique et original. À en juger par les critères du 19e siècle, la façon dont Ellen White utilisait ses sources était conforme à l'éthique de l'époque en matière d'emprunt littéraire. Raymond F. Cottrell, un théologien adventiste du 20e siècle, étudia 30 commentaires du 19e siècle de la première épître aux Corinthiens, alors qu'il travaillait sur la série The Seventh-day Adventist Bible Commentary, et il souligna le fait que ces auteurs du 19e siècle, souvent connus et respectés, copiaient fréquemment ce que d'autres auteurs écrivaient sans mentionner une seule fois leur source. Il en conclut que, selon l'éthique littéraire de l'époque, les emprunts littéraires conséquents et sans citation des sources étaient acceptés ou du moins jamais remis en question, même parmi les auteurs les plus compétents. Ainsi, concernant Ellen White, il n'est pas juste de juger un auteur du 19e siècle en fonction des critères que nous utilisons aujourd'hui. Nous devons le juger en fonction des critères et des pratiques de son temps. Roger Kuhn pensait qu'Ellen White avait une certaine philosophie de la composition sainte, à savoir que rien dans ce monde n'était original et que le Christ était l'auteur et le propriétaire de toutes les idées pertinentes. Elle se considérait donc comme une personne spéciale, choisie par Dieu pour exprimer des vérités anciennes dans un langage moderne. W.C. White et Doris E. Robinson expliquèrent cette position dans un document intitulé « Brief Statements » publié en 1933. Au début de son expérience, quand Ellen White était désemparée en raison de sa difficulté à exprimer en langage humain les vérités divines qui lui étaient révélées, il lui revenait en mémoire que toute sagesse et toute connaissance viennent de Dieu, et elle avait l'assurance que Dieu lui accorderait son soutien et sa grâce. Il lui était révélé qu'en lisant des publications et des ouvrages religieux, elle trouverait de précieuses vérités exprimées dans un langage acceptable et qu'elle recevrait l'aide du ciel qui lui permettrait de les discerner et de les distinguer des déclarations erronées auxquelles elles étaient parfois associées. Kuhn expliqua également quelles étaient les raisons pratiques pour lesquelles Ellen White s'inspirait d'ouvrages rédigés par d'autres auteurs. Pour l'aider à exprimer au mieux les idées et les vérités qui lui étaient révélées en vision. Pour donner des détails qui n'étaient pas dans les visions. Pour enrichir sa production littéraire avec de belles expressions décrivant la vérité. Pour expliquer de façon appropriée et riche de sens les positions doctrinales adventistes aux membres d'Église. Et les emprunts littéraires d'Ellen White étaient peut-être une activité relative à son subconscient et due à une possible mémoire photographique. 2. Ellen White utilisa des sources non inspirées de façon intentionnelle. Comme nous l'avons souligné ci-dessus dans la déclaration de W.C. White, Ellen White lisait des ouvrages d'autres auteurs et considérait que c'était un plaisir, une commodité et un gain de temps d'utiliser leur langage afin de décrire au mieux ce qui lui était révélé en vision. Elle était donc consciente d'avoir cette habitude consistant à utiliser certaines parties de phrases trouvées dans les écrits d'autres auteurs et à les intégrer dans ses propres écrits, comme le déclara son fils. Dans ses manuscrits originaux, par exemple, des guillemets sont parfois utilisés, et parfois il n'y en a pas. Comme le souligne Fred Veltman dans son étude sur The Desire of Ages, Ellen White utilisait des sources extérieures consciemment et intentionnellement, et les parallèles littéraires n'étaient pas accidentels et n'étaient pas non plus la conséquence de sa mémoire photographique. Le fait qu'elle ne mentionnait pas les auteurs qu'elle citait est lié à la dimension légale citée ci-dessus et aux questions éthiques que nous aborderons ci-dessous. La façon dont Ellen White utilisait ses sources était astucieuse sur le plan théologique. On peut citer en exemple la façon dont elle s'appuya sur les écrits de Calvin Stowe pour évoquer sa position sur l'inspiration. Ellen White cita des mots et des expressions de l'ouvrage de Stowe intitulé « Origin and History of the Books of the Bible », mais elle ne reprit pas certaines expressions qui auraient trahi sa compréhension du processus d'inspiration. Par exemple, il avait écrit « Ce ne sont pas les mots de la Bible qui furent inspirés. Ce ne sont pas les pensées de la Bible qui furent inspirées. Ce sont les hommes qui écrivirent la Bible qui furent inspirés. » Ellen White écrivit « Ce ne sont pas les mots qui furent inspirés, mais les hommes qui furent inspirés. » Elle ne reprit donc pas les mots « Ce ne sont pas les pensées de la Bible qui furent inspirées. » Contrairement à Stowe, elle croyait que les pensées des auteurs bibliques étaient aussi inspirées. Après avoir soigneusement analysé la façon dont Ellen White cite Stowe, Denis Fortin conclut. D'après cet exemple, il semble évident que le texte de Stowe n'était pas loin d'elle quand elle écrivit le sien. Pourtant, elle ne le copia pas de façon automatique, mais elle réfléchit à ces deux idées, comprit la différence et mit l'accent sur sa propre compréhension du processus de l'inspiration. On peut expliquer la façon dont Ellen White utilisait ses sources en faisant la différence entre deux concepts distincts, à savoir la pensée inspirée par la lecture et la lecture inspirée par la pensée. Dans le processus de pensée inspirée par la lecture, c'est le fait de lire qui dirige la pensée, comme lorsqu'un étudiant révise pour un examen. Les informations, les idées et les données contenues dans le manuel qu'il utilise contrôlent sa pensée. Il doit connaître le contenu du livre et l'expliquer de façon appropriée le jour de l'examen. Il en est de même quand une personne lit un ouvrage pour y trouver des informations. Le texte de cet ouvrage gouverne sa pensée. La plupart des chrétiens lisent la Bible ainsi, puisque c'est la parole de Dieu. Ils veulent que l'Écriture contrôle et dirige leur pensée. En revanche, dans le processus de lecture dirigé par la pensée, les pensées et les positions du lecteur contrôlent et dirigent la façon dont il lit. Souvent, il note ses pensées dans la marge au lieu de se contenter de souligner les phrases importantes. Finalement, les positions préalables du lecteur et le contenu du livre forment une synthèse. Mais dans ce processus, le lecteur aborde le texte avec des concepts bien précis à l'esprit, et le texte sert de catalyseur à ses idées créatives. Par conséquent, ses idées transcendent le texte. Quand Ellen White lisait ses sources, elle n'en dépendait pas pour obtenir des informations et des idées, comme c'est le cas dans le processus de pensée inspiré par la lecture. Au contraire, elle abordait les ouvrages qu'elle lisait avec des idées bien établies, comme dans le processus de lecture inspiré par la pensée. Comme l'expliquèrent W.C. White et Robinson, quand elle lisait un livre, elle n'était pas « à court de pensées à exprimer », et elle ne le consultait pas pour trouver des thèmes au sujet desquels elle pourrait écrire. Au contraire, une grande lumière lui avait été donnée, et elle désirait trouver des formes d'expression utiles et concises. Ainsi, son esprit était conscient et alerte, et elle contrôlait ce qu'elle lisait. Elle avait des concepts et des images en tête, et elle lisait de façon intentionnelle, dans le but d'y trouver des expressions qui pourraient lui être utiles. Parfois, ses lectures la faisaient réfléchir et lui permettaient de décrire au mieux ce qui lui avait été révélé en vision. De cette façon, le processus d'inspiration dirigeait sa façon d'aborder les ouvrages qu'elle lisait et d'utiliser ses sources, aboutissant à quelque chose d'unique et d'original. Voici ce que déclara W.C. White. Il est remarquable que dans sa façon de lire ou de parcourir des ouvrages, son esprit soit toujours orienté vers les livres les plus utiles et les passages les plus utiles de ses livres. Parfois, elle racontait à mon père, et en ma présence, l'expérience qu'elle vivait et la façon dont elle se sentait poussée à lire un livre auquel elle ne s'était jamais intéressée auparavant et à se concentrer sur certains passages qui l'aidaient à décrire ce qu'elle avait vu et qu'elle désirait présenter. La façon de lire d'Ellen White était donc dirigée par sa pensée. 3. Les connaissances courantes qu'Ellen White acquérait en lisant des ouvrages d'auteurs protestants étaient toujours subordonnées à son inspiration.
Les connaissances courantes sont les connaissances accessibles à tous, grâce aux expériences de la vie, à la lecture et aux recherches que l'on peut faire. Comme leurs semblables, les prophètes bibliques possédaient des connaissances courantes, et ils les utilisaient pour communiquer ce que Dieu leur avait révélé. On constate par exemple que les auteurs bibliques avaient des connaissances courantes grâce au fait qu'ils utilisaient de nombreuses sources non bibliques dont on trouve des fragments dans l'Écriture. Manifestement, les prophètes connaissaient les écrits de leur temps grâce à leur lecture et ils les utilisaient pour communiquer leurs messages inspirés. Par exemple, Moïse utilisa les lois du Proche-Orient ancien pour former le cadre lui permettant de communiquer les lois de Dieu de telle façon que le peuple puisse les comprendre. Les auteurs de certains psaumes, de certains proverbes et de certains passages du Cantique des Cantiques eurent recours à la littérature égyptienne pour transmettre leur message de façon poétique. Luc utilisa des récits historiques pour rédiger son évangile. Et Paul cita la littérature païenne pour transmettre son message inspiré à ses lecteurs. Dans l'Apocalypse, Jean employa un langage emprunté à la description de la déesse Hécate pour décrire le Christ glorifié, mais il fit des modifications de façon à montrer que le Christ surpassait cette déesse et toute autre autorité naturelle ou surnaturelle. Dans tous ces exemples, la pensée de l'auteur inspiré transcenda celle de sa source. Les références bibliques aux connaissances générales étaient donc toujours subordonnées à la vérité révélée par Dieu aux prophètes. Leur approche inspirée prédominait toujours sur la façon dont ils utilisaient leurs connaissances. Les connaissances révélées par Dieu ont une plus grande autorité que les connaissances générales, mais ne les remplacent pas. Elles sont complémentaires. Habituellement, Dieu ne révèle pas de façon surnaturelle ce qu'il leur a permis de découvrir par eux-mêmes. Ainsi, dans le processus d'inspiration, le Saint-Esprit laissait les prophètes communiquer le message inspiré grâce à leurs connaissances générales et dans un langage humain, sans que cela ne fasse obstacle à la vérité révélée. Voici quelques remarques utiles tirées de l'ouvrage « The Ellen G. White Encyclopedia ». Ellen White n'affirmait pas avoir l'autorité d'un prophète canonique, mais elle disait être inspirée par le même esprit et de la même façon que les prophètes canoniques, voire The Great Controversy, pages 8, 10 à 12. Pourtant, pour décrire ce qu'elle avait vu en vision, elle n'hésitait pas à utiliser des sources humaines afin de donner des détails et des illustrations complémentaires. Dans ses lettres personnelles, elle enrichissait les conseils inspirés qu'elle donnait en faisant référence à des sources ordinaires. Pour commenter l'écriture, elle utilisait des dictionnaires et des chronologies bibliques et d'autres ressources de façon à développer ses connaissances. Pour présenter les principes de santé, elle se référait aux écrits d'autres réformateurs et médecins de son temps. Voir par exemple Health Reformer, avril 1871, mai 1871, octobre 1871. Pour ses écrits historiques, elle consultait les livres d'histoire, les chronologies et les livres de géographie auxquels elle avait accès de son temps, demandant même parfois à ses assistants de se rendre dans des bibliothèques universitaires pour trouver les informations qui lui manquaient. De plus, dans les rééditions de ses ouvrages, elle s'efforçait de revoir des détails historiques quand elle découvrait des sources plus fiables que celles qu'elle avait utilisées précédemment. Elle refusa de reconnaître certaines soi-disant erreurs, mais elle en reconnut d'autres et les corrigea. Voici de quelle façon elle utilisait ses connaissances générales dans ses écrits. Mais comme pour les auteurs bibliques, les informations qu'Ellen White obtenait grâce à des sources non inspirées, par ses lectures, ses voyages, les expériences de la vie, ses fréquentations et ses recherches, étaient toujours subordonnées aux informations qu'elle recevait grâce à des révélations directes. Quand elle se basait sur des sources secondaires pour préparer ses écrits, le processus d'inspiration était à l'œuvre. Elle prenait du recul avec ses ressources et les modifiait de façon conforme à son approche inspirée, qui était souvent bien différente de celle de l'auteur auquel elle faisait référence. D'après W.C. White, parfois elle ajoutait certaines choses aux ressources qu'elle lisait. Bien souvent, en lisant Hannah, Farrar ou Fleetwood, elle découvrait la description d'une scène qui lui avait été révélée de façon très claire, mais qu'elle avait oubliée, et elle pouvait ensuite la décrire de façon plus détaillée que celle qu'elle avait lue. Voici de quelle façon une personne inspirée utilisait ses connaissances générales. 4. La façon dont Ellen White citait les auteurs non inspirés pour exprimer ses pensées inspirées était conforme avec son approche du processus d'inspiration. La position d'Ellen White concernant le processus d'inspiration était plus holistique que verbale. Elle écrivit que « les écrivains de la Bible furent des hommes de plume et non la plume même de Dieu ». En fait, elle emprunta à Calvin Stowe cette déclaration, qui est certainement la plus forte sur le sujet de l'inspiration, et elle la modifia, mettant l'accent sur la personne, homme de plume, plus que sur les mots, plume. Ainsi, ce ne sont pas les mots de la Bible qui furent inspirés, mais les hommes qui furent inspirés. L'accent est mis sur la personne. L'inspiration agit non pas sur les mots ou les expressions, mais sur l'auteur lui-même à qui le Saint-Esprit communique des pensées. Mais elle ajouta, quant aux mots, ils portent l'empreinte de l'individualité. Cela signifie que les mots d'une personne inspirée reflètent sa personnalité, son éducation et son expérience de vie. Dans ce contexte, l'Esprit divin se répand. Le terme « se répandre » signifie que le Saint-Esprit se déverse sur l'esprit humain. Mais cela ne se fait pas d'une façon contraire à la personnalité humaine. Au contraire, il s'unit à l'esprit de l'homme, si bien que les déclarations de l'homme sont la parole de Dieu. Cette approche de l'inspiration met l'accent sur la personnalité des prophètes et pas uniquement sur leurs paroles ou leurs pensées. L'inspiration concernait aussi les mots des auteurs bibliques, sans pour autant que ces mots leur soient dictés. Dieu allait à la rencontre des auteurs bibliques, là où ils en étaient dans leur expérience de vie, et leur personne tout entière était touchée. Ainsi, exception faite des occasions où Dieu parlait de façon directe, cela excluait de fait tout contrôle du Saint-Esprit sur leurs paroles. Cette association unique de l'humain et du divin permit d'aboutir à la parole de Dieu. Ce processus d'inspiration, dont on dit parfois qu'il est symphonique et qu'il touche la personne entière, concerne la nature très diverse des écrits inspirés de la Bible. En effet, Dieu révéla ses vérités de plusieurs façons différentes. On peut évoquer le mode théophanique, Exode 3, versets 1 à 5, le mode prophétique, Apocalypse 1, versets 1 à 3, le mode verbal, Exode 31, verset 18, le mode historique ou mode de recherche, Luc 1, versets 1 à 3, les paroles de sagesse, Ecclésiaste 1, versets 1, 12 à 14, 12, versets 9 à 11, les paroles poétiques, psaumes, et le mode épistolaire, les épîtres du Nouveau Testament. Certains de ces différents modes d'inspiration se retrouvent dans les écrits d'Ellen White. Par exemple, le mode théophanique était à l'œuvre dans sa description des scènes célestes qu'elle avait vues en vision. Dans quelques rares cas, elle utilisa le mode verbal pour citer un ange ou un messager du ciel. Quand Ellen White utilisait des informations utiles qu'elle trouvait dans un ouvrage et les adaptait pour les rendre conformes à son approche de l'inspiration, elle agissait suivant le mode historique ou mode de recherche de l'inspiration. Comme nous l'avons souligné précédemment, Ellen White lisait beaucoup et elle admirait le langage grâce auquel d'autres auteurs présentaient à leurs lecteurs les scènes que Dieu lui présentait en vision. Elle considérait que c'était un gain de temps de reprendre totalement ou partiellement les mots qu'ils avaient employés pour présenter les choses qui lui étaient révélées et qu'elle souhaitait transmettre à ses lecteurs. Ellen White était consciente de ses limites en tant qu'écrivain et de l'importance des messages qu'elle devait communiquer. Ainsi, elle lisait beaucoup afin de mieux exprimer les concepts divins qu'elle avait à l'esprit. Pour elle, ce n'était pas un obstacle au processus d'inspiration. Ce processus concernant la personne tout entière, les prophètes pouvaient utiliser les expressions, les figures littéraires et les illustrations qu'ils avaient apprises ou découvertes dans leur lecture afin de communiquer le message divin qu'ils avaient reçu. 5. Ellen White faisait preuve d'honnêteté en communiquant ses sources à ses lecteurs. Une autre question éthique se pose à ce sujet. Ellen White essayait-elle de cacher ou de nier ses emprunts littéraires? Robert W. Olson, l'ancien directeur du White Estate, publia un article dans Ministry en février 1991 étudiant tous les cas où Ellen White ne déclara pas avoir eu recours à des sources extérieures. Il montra que, dans leur contexte, la plupart de ces cas ne posaient pas de problème. Warren H. Jones aborda aussi cette question dans la revue Ministry, en juin 1982, en présentant 5 points montrant qu'il n'y avait pas de tentative de la part d'Ellen White de tromper ses lecteurs ou de dissimuler le fait qu'elle utilisait des sources extérieures. Il peut être utile de revoir ces faits. Premièrement, W.C. White fit preuve de transparence en expliquant de quelle façon Dieu guidait sa mère lorsqu'elle lisait les ouvrages d'autres auteurs. Elle lui avait expliqué que Dieu la guidait vers des sources qui pourraient l'aider dans son travail d'écriture, et il expliqua donc clairement de quelle façon elle travaillait, comme nous l'avons vu dans les déclarations déjà citées dans ce chapitre. Ainsi, Jones déclare « Si Ellen White avait voulu tromper ses lecteurs, pourquoi Dieu aurait-il approuvé le fait qu'elle utilise des sources extérieures et lui aurait-il donné des instructions pour qu'elle s'inspire de paroles de vérité venant d'auteurs non inspirés ?» Deuxièmement, en diverses occasions, Ellen White s'appuya sur d'autres sources, au vu et au su de tout le monde. Une pièce lui était même réservée au deuxième étage du bâtiment de la Review and Herald, où se trouvait une bibliothèque. Là, elle choisissait un certain nombre d'ouvrages qui lui semblaient intéressants. Si Ellen White avait voulu cacher ce qu'elle faisait, elle n'aurait jamais travaillé de la sorte dans un endroit où de nombreux adventistes pouvaient la voir. Troisièmement, Ellen White prêtait souvent ses livres, des livres dont elle aurait manifestement besoin tôt ou tard pour ses recherches. Jones estime donc qu'il aurait été inexplicable qu'elle agisse ainsi si elle voulait dissimuler le fait qu'elle s'inspirait de ses sources extérieures. Quatrièmement, Ellen White ne cherchait pas à cacher à ses assistants le fait qu'elle lisait des livres dans le cadre de ses recherches et de son activité d'écriture. Quand elle était en Europe, par exemple, elle écrivit à sa famille à Battle Creek et lui demanda de lui envoyer des histoires de la Bible afin de l'aider pour ses propres écrits.
Cinquièmement, Ellen White recommandait aux membres de l'Église adventiste du septième jour la lecture des livres dont elle s'inspirait pour rédiger ses ouvrages et ses témoignages. Par exemple, pour écrire The Great Controversy, Le Grand Espoir, elle se basa sur History of the Reformation de Merle d'Aubigné, History of the Waldenses de Wiley, et sur des livres d'auteurs adventistes comme History of the Sabbath de Andrews, The Sanctuary and Its Cleansing de Uriah Smith et The Life of William Miller de James White, son mari. Les adventistes connaissaient bien ces livres. Il est intéressant de noter qu'avant de publier The Great Controversy dans la revue Review and Herald, elle conseilla d'acheter et d'offrir les livres de Merle d'Aubigné. La revue Signs of the Times, du 22 février 1883, fit la publicité du livre de Conybeare et Howson, The Life and Epistles of Saint Paul, dont elle s'inspira pour écrire Sketches from the Life of Paul. Voici ce qu'elle en disait. « Je considère le livre de Conybeare et Howson, The Life of Saint Paul, comme un ouvrage intéressant et particulièrement utile pour tous ceux qui étudient l'histoire du Nouveau Testament. » Denis Fortin souligne à juste titre que le fait que son propre livre sur la vie de Paul était sur le point de sortir au mois de janvier de cette même année montre clairement qu'Ellen White ne cherchait pas à cacher aux membres d'Église les parallèles évidents entre son travail et celui de Conybeare et Howson. 6. Les emprunts littéraires d'Ellen White ne constituent qu'une petite partie de ses écrits. Certains spécialistes ont soigneusement étudié la façon dont Ellen White utilisait ses sources, notamment dans Life of Christ Research Project. D'après Weltman, ces spécialistes ont pris la phrase comme unité de comparaison entre le texte principal et les sources antérieures. Ils ont défini trois catégories. Les verbatims, des phrases exactement semblables à certaines phrases ou parties de phrases de la source. Les paragraphes à peu près similaires, des phrases faisant écho au texte source. Et les textes indépendants, sans aucun parallèle avec le texte source. Voici quelle a été la conclusion de cette étude concernant les liens littéraires dans The Desire of Ages. Aucun verbatim absolu n'a été trouvé. Sur les 2624 phrases étudiées dans The Desire of Ages, 1,1% du texte, 20 peuvent être considérées comme des verbatims approximatifs et 183, 6%, comme des paraphrases manifestes. Sur les 2624 phrases, 823, 31%, montrent un certain lien avec les sources, qu'il s'agisse d'un mot semblable ou davantage. Concernant les 1612 phrases indépendantes, le niveau moyen de dépendance était de 3,3. On peut donc parler de paraphrases approximatives. En étudiant les passages empruntés des écrits d'Ellen White, il apparaît clairement qu'elle suivait parfois la trame d'autres sources afin de décrire au mieux les détails de l'aperçu général qui lui avait été présenté de façon claire et simple dans ses visions. Par exemple, quand elle écrivit au sujet de la vie du Christ, elle puisa certains détails historiques dans le livre de William Hanna, Life of Christ, et dans celui de Frédéric qui porte le même titre. Elle utilisa History of the Reformation de Merle d'Aubigné et History of the Waldenses de Wiley pour rédiger The Great Controversy. Les révélations qu'elle avait reçues lui permettaient de comprendre certains thèmes au sujet desquels elle avait fait des lectures, écrivit W.C. White. Cela lui permettait de choisir et d'adapter ce qui était vrai et de rejeter ce qui était erroné ou peu fiable. Ainsi, ses écrits étaient vraiment le reflet de son approche personnelle. Une étude menée par Tim Poirier, directeur adjoint et archiviste du White Estate, a montré que les emprunts d'Ellen White étaient minimes par rapport à la somme de ses écrits. Pendant des années, il nota soigneusement les parallèles littéraires signalés par les détracteurs et les défenseurs d'Ellen White, sauf concernant The Desire of Ages, en raison du projet Weltman. Cette étude conclut que le nombre de lignes présentant des parallèles littéraires identifiés aujourd'hui de façon précise dans les écrits d'Ellen White, représentait moins de 4% du total, un chiffre bien inférieur à celui qu'avancent ses détracteurs. 7. Bien qu'Ellen White se soit inspirée de sources extérieures pour écrire ses plus belles pages, elle enrichit et s'appropria ses passages.
elle voulait que ceux-ci puissent parfaitement correspondre à sa pensée. Madame White lisait des livres qui, selon elle, lui seraient utiles afin de présenter dans un langage clair et fort les recommandations qui lui avaient été révélées, d'après W.C. White et Robinson. Elle avait reçu une grande lumière et elle aspirait à trouver des formes d'expression utiles et concises ainsi que des paroles de vérité correctement exprimées. Elle faisait ceci avec l'assurance d'être guidée par Dieu pour distinguer le vrai du faux. Quand elle trouvait ces « paroles de vérité correctement exprimées » dans les écrits d'autres auteurs, Ellen White les notait probablement afin de les utiliser ultérieurement sous forme de verbatim ou de paraphrase. Comme des pierres précieuses qui ont besoin d'être taillées, polies et affinées pour que leur beauté soit mise en valeur, expliqua Kevin Morgan, ces paroles de vérité devaient être corrigées, retravaillées et affinées avant de pouvoir être utilisées. Et quand Ellen White publiait ses paroles de vérité, elles exprimaient sa pensée. Exemple d'emprunt. Les cinq exemples suivants, des déclarations familières aux lecteurs des écrits d'Ellen White, sont de précieuses paroles de vérité. Il s'agit de paraphrases approximatives ou de verbatim et concernent la prière, la miséricorde, la vie du Christ, l'intégrité des hommes et le salut. Les sources utilisées par Ellen White se trouvent sur la gauche et les passages tels qu'elle les modifia se trouvent sur la droite. La prière. Edward Bickersteth, A Treatise on Prayer, 1834. Ellen White, Steps to Christ, Le meilleur chemin, 1891. C'est la clé permettant d'ouvrir les trésors de Dieu pour nous. Ainsi, par la prière, nous obtenons toutes les bénédictions que nous réclamons. La prière est, dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance. La miséricorde. Thayer, Sketches from the Life of Jesus, Historical and Doctrinal, 1891. Ellen White, The Desire of Ages, 1898. Le temps était venu. Le monde était prêt pour le grand événement. L'horloge de la destinée avait sonné. Dieu ne se hâte pas pour ses desseins particuliers. Semblable aux étoiles parcourant, en vastes orbites, la voie qui leur a été tracée, les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. La vie du Christ. Daniel March, Walks and Homes of Jesus, 1866. Ellen White, The Desire of Ages, 1898. Néanmoins, cela nous fera du bien de méditer fréquemment et avec sérieux sur les scènes finales de la vie terrestre du Christ. Au milieu de toutes les choses et de toutes les passions de ce monde par lesquelles nous sommes attirés et tentés, nous apprendrons des leçons salutaires en nous les remémorant et en méditant une heure chaque jour dans le but de fortifier notre foi et de ranimer notre amour au pied de la croix. Quelles sont donc les leçons que la passion divine, le sacrifice infini et la croix du Christ qui nous sauve peuvent nous enseigner? Il nous serait avantageux de passer, chaque jour, une heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant, par l'imagination, d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie, notre amour est intensifié et son esprit nous pénètre plus complètement. C'est en apprenant à nous repentir et à nous humilier au pied de la croix que nous serons finalement sauvés. L'intégrité des hommes. Driftings, Buffalo Daily Courier, 16 juin 1866. Ellen White, Éducation, 1903. Ce dont cette époque a besoin, c'est d'hommes, non pas d'hommes qu'on achète, mais d'hommes honnêtes, sains dans tous les domaines et sincères au fond d'eux-mêmes, d'hommes qui craignent le Seigneur et rejettent toute convoitise, d'hommes qui condamnent le mal dont ils sont témoins chez leurs amis ou leurs ennemis, d'hommes dont la conscience est aussi fiable que la boussole l'est au pôle, d'hommes qui défendraient la justice même si le ciel tremblait et la terre s'écroulait. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Le salut. Robert Boyd, The World's Hope or The Rock of Ages, 1873. Ellen White, The Desire of Ages, 1898. Il a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il est venu sur la terre et a pris nos péchés sur lui, afin que nous puissions recevoir sa justice et aller au ciel. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice, à laquelle nous n'avions pas participé. Le Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice, à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Bien que les textes d'origine soient facilement identifiables dans les passages d'Ellen White, elle s'appropria ces paroles de vérité, même dans les deux derniers exemples où on approche du mot à mot. Elle changea certains mots et en ajouta d'autres. Elle retravailla les idées générales et elle améliora et mit en valeur ses paroles qui devinrent donc les siennes. D'après les spécialistes, E. Marcella Anderson King et Kevin Morgan, en vérité, bien qu'Ellen White ait utilisé des descriptions bibliques, repris des éléments de langage ou adapté des pensées, des mots ou des expressions trouvées dans ses lectures, une chose est certaine, le produit fini est clairement le sien. Elle a rendu un grand service à ses lecteurs en identifiant, en améliorant et en rendant mémorables certains passages dans le but de raconter l'histoire de l'amour de Jésus. Conclusion. Pour conclure, même si les recherches sur les emprunts littéraires d'Ellen White se poursuivent, plusieurs idées émergent de la controverse concernant ce sujet. Premièrement, les débats concernant la façon dont elle utilisait des sources extérieures ont permis à l'Église de découvrir de quelle façon elle travaillait pour transmettre les vérités qui lui étaient révélées. Deuxièmement, ces discussions ont aidé de nombreux membres d'Église à mieux comprendre la nature de l'inspiration biblique et la place qu'elle occupe dans l'expérience d'Ellen White. Par conséquent, l'idée de dictée mécanique des idées révélées a été corrigée et il a été clairement établi, grâce à l'écriture, que la personne entière des prophètes était inspirée. Troisièmement, les recherches menées sur les sources d'Ellen White nous ont permis de découvrir quelle était la pensée du XIXe siècle concernant les thèmes bibliques. Les recherches effectuées sur les sources théologiques et historiques d'Ellen White en disent long sur son mode de pensée théologique ainsi que celui des auteurs chrétiens du XIXe siècle. Elle s'inspira des meilleurs ouvrages disponibles de son temps et les utilisa avec discernement. Je dis souvent aux étudiants de mon cours sur la vie et les enseignements de Jésus que lorsqu'ils lisent « The Desire of Ages », Jésus-Christ, ils découvrent l'essentiel de la pensée du XIXe siècle sur la vie du Christ, mais selon la perspective d'Ellen White concernant le grand conflit. Enfin, les recherches effectuées jusqu'à aujourd'hui montrent que, même si Ellen White s'inspira de sources extérieures pour rédiger ses livres et ses articles, la façon dont elle procéda ne peut être considérée comme de la copie ou du plagiat. Après avoir étudié la question pendant 8 ans, Fred Veltman fit cette conclusion. Les recherches montrent clairement qu'elle n'était pas esclave, mais maître de ses sources. Elle choisissait rapidement les expressions qui lui permettraient d'enrichir ses écrits et d'atteindre ses objectifs. Avec l'aide de ses assistants, Ellen White ne proposa pas des répliques des œuvres d'autrui, mais elle procéda à des compositions littéraires reflétant sa foi et l'espérance chrétienne qu'elle désirait partager avec les adventistes et les chrétiens en général. Autrement dit, les sources non inspirées d'Ellen White lui permirent de décrire au mieux le métarécit correspondant aux vérités qui lui avaient été révélées, la victoire définitive de l'amour de Dieu manifestée en Jésus-Christ dans le grand conflit entre le Christ et Satan. Elle n'eut de cesse de développer ce thème majeur, ce qui montre qu'elle faisait preuve d'une véritable indépendance de la pensée et qu'elle enrichit considérablement la pensée chrétienne.